Chapitre 16. Arrêtez-le. Les ténèbres couvrent Tom All Alone. Grandissant toujours depuis que le soleil a baissé, elles ont fini par envahir tous les vides. Quelques lumières, qui maintenant sont éteintes, ont brûlé d'abord çà et là dans ses bouges, languissant comme la flamme de la vie au milieu de cet air infect et prêtant comme elle leur sinistre clarté à d'horribles créatures. La lune a jeté un regard morne et froid sur cet amas de ruines immondes, mais elle a passé. Tout est noir, et Tom All Alone, profondément endormi, est immobile sous le poids du plus affreux cauchemar qui soit sorti de l'enfer. Que de brillants discours n'a-t-on pas fait au Parlement et ailleurs relativement à lui? Que de disputes violentes au sujet des moyens à employer pour le sortir de la fange? Est-ce de vive force qu'on le fera rentrer dans la voie commune, ou s'en tiendra-t-on à de simples mesures administratives? Faut-il s'en rapporter à l'Église, ou l'abandonner à l'influence des laïcs? Sera-t-il exproprié? L'enfermera-t-on pour l'instruire, ou cassera-t-il des pierres sur les routes? Et pendant que les théories s'agitent, le vieux Tom croupit dans l'abîme où il s'enfonce de plus en plus. Mais il a sa vengeance, que les vents eux-mêmes se chargent de répandre. Il n'est pas une goutte de son sang corrompu qui ne porte quelque part la contagion et la mort. Cette nuit, il souillera les veines de quelque illustre famille, et sa grâce ne pourra pas dire non, ni repousser l'infâme alliance. Il n'est pas un atome de sa bave, pas une molécule de l'air pestilentiel qu'il respire, pas une de ses infamies et de ses douleurs, de ses misères, de ses impuretés, qui ne rejaillissent sur tous, et n'aille, à travers les différentes couches de l'ordre social, atteindre l'être le plus fier de son rang et de ses titres. Oh, je vous le dis, Tom All Alone est vengé par la souillure qu'il impose, par son ignorance même, sa dégradation et ses crimes. On se demande s'il est plus hideux la nuit que le jour. Mais ce qu'il y a de certain, c'est que plus on le voit, plus on le trouve repoussant. Et mieux vaudrait, pour l'honneur de la Grande-Bretagne, que le soleil, qui va bientôt paraître, se couchât quelquefois sur les possessions anglaises, que de jamais se lever sur une semblable monstruosité. Un gentleman, qui préfère sans doute errer à l'aventure, plutôt que de compter les heures dans un lit où il ne peut dormir, traverse Tom All Alone au point du jour. Il s'arrête souvent et regarde autour de lui avec surprise. Ce n'est pas la curiosité seule qui l'attire, car l'intérêt et la pitié brillent au fond de ses yeux noirs. Il paraît d'ailleurs comprendre cette misère et l'avoir étudiée depuis longtemps. De chaque côté du cloaque fétide qui forme la rue principale de cet endroit infâme, les maisons délabrées sont silencieuses. Personne ne bouge. Tout dort, excepté lui. Cependant, une femme est assise sur les marches d'une porte. Il l'aperçoit et se dirige de ce côté. En s'approchant, il croit voir qu'elle a fait une longue route. Ses pieds sont couverts de boue. L'un d'eux est enveloppé de linge. Elle a près d'elle un paquet et sommeille peut-être, car elle ne paraît pas entendre les pas qui s'avancent. Lorsqu'il arrive auprès de cette femme, Alan Woodcourt la regarde et s'arrête. « Que faites-vous là ? » dit-il. « Rien, monsieur. »« Vous n'avez donc pas pu vous faire ouvrir ?»« J'attends qu'on soit levé dans cette autre maison là-bas, un garni, » répond-elle avec douceur. « Et je suis venu m'asseoir ici pour que le soleil me réchauffe quand il va paraître. » « Vous m'avez l'air bien fatigué, et je souffre de vous voir dans la rue. »« Merci, mon bon monsieur, ça n'a pas d'importance. » L'habitude qu'il a de parler aux pauvres et de se montrer simple et bon à leur égard, d'éviter cet air de protection, de condescendance ou même d'enfantillage que certaines gens croient devoir prendre avec eux, lui a fait gagner immédiatement la confiance de cette femme. « Laissez-moi voir ce que vous avez au front, lui dit-il. N'ayez pas peur. » « Je ne vous ferai pas de mal. Je suis médecin. Vous avez reçu un mauvais coup, pauvre femme. La peau est profondément entamée. Vous devez beaucoup souffrir. »« Un peu, » dit-elle en essuyant une larme. « Permettez que je vous panse. Ne craignez rien, mon mouchoir ne peut pas vous blesser. »« J'en suis bien sûr, mon bon monsieur. »« Votre mari est donc briquetier, » dit-il après avoir pris sa trousse dans sa poche et en procédant au pansement de la blessure. « Comment savez-vous ça ? » répond la femme avec surprise. La couleur de la terre qui couvre votre paquet et vos vêtements l'indique. Je sais en outre que les briquetiers vont d'un lieu à l'autre pour y chercher de l'ouvrage, et qu'ils sont en général assez durs pour leurs femmes. La pauvre créature lève les yeux comme pour protester contre cette assertion et faire entendre que ce n'est pas son mari qui lui a donné ce mauvais coup. « Où est-il à présent ?» demande M. Woodcourt. « Il s'est fait arrêter la nuit dernière, seulement pour 24 heures, et doit venir me chercher au Garni où je vais l'attendre. Il pourra bien se faire mettre en prison pour plus longtemps s'il continue à vous maltraiter de la sorte. Mais vous lui pardonnez, pauvre femme, et je ne dirai pas un mot de plus, si ce n'est que j'aurais voulu qu'il fût digne de votre bonté. Avez-vous de jeunes enfants ?»« Non, monsieur, mais Lise en a un, et je l'aime comme s'il était à moi. » « Demeurez-vous loin d'ici ? » demande-t-il encore, après avoir terminé son pansement. « Nous demeurons à Saint-Alban, à 22 ou 23 milles de Londres. Connaîtriez-vous ce pays-là, monsieur ? » ?»«
J'en ai beaucoup entendu parler. » »«
Mais avez-vous de l'argent pour payer votre garni ?»«
Oui, monsieur. »
Elle lui montre effectivement quelques pièces de monnaie et le remercie de ses soins. Le docteur lui répond qu'il est heureux d'avoir pu lui être utile et s'éloigne en lui souhaitant le bonjour. Tom All Alone est toujours profondément endormi, et rien ne bouge. Mais si, voici quelque chose qui remue. En revenant sur ses pas vers l'endroit d'où il a d'abord aperçu Jenny, Alan voit venir de son côté un individu couvert de haillons qui se traîne le long du mur, les mains en avant, en regardant autour de lui comme s'il avait peur que quelqu'un ne le reconnût. C'est un jeune homme, presque un enfant. Sa figure est d'une maigreur excessive. Et ses yeux, creusés par la fièvre et la faim, ont un éclat singulier. Il est tellement occupé tout entier de se glisser en cachette le long de la muraille que l'apparition d'un gentleman dans Tom All Alone ne l'arrête même pas. Il se cache le visage derrière sa manche en guenille et passe de l'autre côté de la voie fangeuse, où il continue de ramper avec inquiétude. Ses vêtements, dont il serait impossible de reconnaître la forme primitive, pendent en lambeaux autour de lui, comme un paquet de feuilles mortes, pourries au fond de quelques marécages. M. Woodcourt le regarde et croit avoir déjà vu cette figure. Il ne pourrait pas dire en quel endroit, mais assurément il a rencontré ce malheureux quelque part, peut-être à l'hôpital ou dans un lieu de refuge. Et tandis qu'il cherche à rappeler ses souvenirs en s'étonnant lui-même de la persistance qu'il met à vouloir préciser un fait de si mince importance, il entend derrière lui des pas précipités, se retourne et voit le pauvre garçon fuyant à toutes jambes, poursuivi par la femme du briquetier qui lui crie « Arrêtez-le, monsieur, arrêtez-le !» Croyant que le misérable a pris à la pauvre femme son argent ou son paquet, le docteur se place devant le fuyard pour lui barrer le passage. Mais celui-ci fait un crochet, se baisse et lui échappe. Alan se met à courir. Il va l'atteindre lorsqu'un nouveau crochet et un nouveau plongeon sauvent encore le fugitif. La lutte recommence, elle continue. 10 fois, le docteur est sur le point de saisir le malheureux, qui parvient toujours à l'éviter, quand, acculé dans une impasse, le pauvre garçon va rouler au pied d'une vieille palissade de planches pourries et, tout essoufflé, regarde en tremblant celui qui vient de le rattraper. « Vous voilà donc enfin, malheureux Joe !» s'écrie la femme du briquetier hors d'haleine. « Joe !» répète M. Woodcourt en le regardant avec attention. « Joe ? Mais certainement c'est lui que j'ai vu à l'enquête du coroner. »«
Bien sûr que je vous ai vu à l'encriette, » balbutie le pauvre garçon.
« Quoi que vous avez à faire d'un misérable comme moi ? Suis-t-il pas assez malheureux ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse et que je devienne ? Ils m'ont chassé de partout, les uns après les autres, que je suis si las que j'en ai plus que la peau et les os. »«
L'encriette ? Mais c'était pas de ma faute. » J'avais rien fait. Il était bon pour moi, ben bon seulement. Je n'avais que lui à qui parler sur terre. C'est-il moi qui lui aurais souhaité du mal? Que j'aurais voulu être péri à sa place. Et je sais pas pourquoi que j'ai pas encore piqué une tête dans l'io, que je n'en sais rien du tout.
Il prononce ces paroles d'un ton si lamentable, et il y a tant de sincérité dans les pleurs qu'il répand, que M. Woodcourt se sent ému.
Est-ce qu'il vous a volé? Demande-t-il à Jenny.
« Lui ? Oh non, monsieur, il ne m'a jamais rendu que des services, et voilà pourquoi ça m'étonne. » Alan regarde alternativement Joe et la femme du briquetier
en attendant que l'un ou l'autre lui donne le mot de l'énigme. « Il était chez nous, monsieur, » dit Jenny à Saint-Alban. Et comme il était bien malade, une jeune lady, Dieu bénisse la bonne dame pour tout le bien qu'elle m'a fait, a pris pitié de lui et l'a emmené chez elle. Alan s'éloigne de Joe avec horreur. « Oui, monsieur, » continue la pauvre femme. Elle l'emmène chez elle afin de le bien soigner. Et lui, comme un ingrat, un vrai monstre, se sauve pendant la nuit, et depuis ce temps-là, on ne savait même pas ce qu'il était devenu. Et cette jeune lady, qui était si jolie avant ça, mon bon monsieur, a pris sa maladie et perdu sa beauté, qu'on ne la reconnaîtrait pas. N'était sa bonté d'ange, sa jolie taille et sa douce voix. « Saviez-vous ça, maudit ingrat ?» demande Jenny avec colère et en fondant en larmes. Joe, tout étonné de ce qu'il entend, porte ses mains crasseuses à son front, ouvre de grands yeux et tremble de la tête aux pieds. « Richard m'avait parlé de tout cela, » dit M. Woodcourt d'une voix émue. Il se détourne pour dissimuler son trouble et, s'adressant à Joe, quand il a repris son sang-froid, « Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? C'est la pure vérité. « Relevez-vous et répondez, Joe. Êtes-vous revenu ici depuis cette époque ?» Joe hésite un instant, puis il se lève avec embarras et lenteur et se tient debout comme le font tous ses pareils, en appuyant son épaule contre la vieille palissade, en frottant sa main droite sur sa main gauche et son pied gauche sur son pied droit. « Que je sois pendu si j'ai revenu à Tom All Alone avant ce matin, » dit-il d'une voix enrouée. « Pourquoi y revenez-vous ? » lui demande M. Woodcourt. Joe regarde autour de lui, sans lever les yeux plus haut que les genoux de son interlocuteur, et finit par répondre « Je ne sais à rien faire, et je ne peux pas trouver quelque chose à gagner. Je suis si pauvre et si malade. Alors j'ai pensé comme ça que j'allais revenir me cacher ici jusqu'à ce soir, pendant qu'il n'y a personne, et qu'à la nuit je m'en irai demander quelques petites choses à M. Sangsby. Il m'a toujours donné, lui, quoique Mme Sangsby, elle est comme tous les autres, et me chasse quand elle me voit. « D'où venez-vous ? » demande encore M. Woodcourt. Joe recommence à regarder autour de lui et s'appuie de profil sur la palissade avec résignation. « Je vous ai demandé d'où vous venez, » répète M. Woodcourt. « M'avez-vous entendu ?»« De traîner sur les routes, » dit Joe. « Et comment avez-vous pu quitter cette maison où cette jeune lady avait eu la bonté de vous emmener ?» Joe sort tout à coup de son abattement et déclare avec irritation qu'il n'a rien su de ce qui est arrivé à la jeune miss, qu'il aurait mieux aimé se faire couper par morceaux que de lui donner sa maladie, et entremêle ses paroles de sanglots. « Voyons, reprend M. Woodcourt, dites-moi où vous êtes allé en quittant cette jeune lady. »« Mais c'est pas moi qui m'ai en allé, on m'a emmené de force, et voilà. » Joe, craignant d'être entendu, regarde partout avec inquiétude, comme si l'objet de sa terreur avait pu se cacher dans les décombres. « Et qui vous a emmené ?»« J'ose pas le dire. J'ai besoin de le savoir, et je vous le demande au nom de cette jeune lady. Ne craignez rien, je ne le répéterai pas, et personne ne pourra nous entendre. »« Ou que si, » dit Joe en secouant la tête. « Il saura bien tout de même, lui. »« Mais non, puisqu'il n'est pas ici. Vous croyez ça, mais il est partout à la fois. » M. Woodcourt le regarde avec étonnement. Convaincu de la sincérité du pauvre garçon, il attend avec patience une réponse plus explicite. Et Joe, vaincu enfin par la douceur du gentleman, murmure tout bas un nom à son oreille. « Qu'aviez-vous donc fait ? » répond le docteur. « Rien, monsieur. Jamais rien pour me faire arrêter, excepté l'encriette, et puis que j'ai pas circulé. Mais je circule à présent, et c'est au cimetière que je m'en vas. Non, mon pauvre Joe, nous saurons bien l'empêcher. Mais dites-moi, où vous a-t-il emmené ? À l'hôpital, où j'ai resté longtemps. Puis alors, il m'a donné 4 écus, et m'a dit comme ça, « Filez. On n'a que faire de vous ici. Filez vite, et ne vous arrêtez pas. Circulez, ou sinon vous verrez. Si je vous trouve à moins de 40 000 de Londres, c'est à moi que vous aurez affaire, et il vous en cuira. » « Eh, si me voyez là, » continue Joe, toujours l'air effaré et l'œil inquiet. « Il est moins ingrat que vous ne l'aviez supposé, » dit M. Woodcourt à la femme du briquetier. Mais ce n'est pas vraiment sa faute. Il avait une raison pour partir. Merci, monsieur. Merci. Là, maintenant, voyez-vous, comme vous avez été mauvaise pour moi, dit Joe en s'adressant à Jenny. Mais je vous en veux pas. Dites seulement à cette jeune miss ce que le monsieur a dit, et je serai pas fâché contre vous. car vous avez été bonne pour moi, vous, et que je ne l'ai pas oublié.
Voyons, Joe, dit Alan, venez avec moi, et je vous placerai dans un endroit où vous serez mieux qu'ici. N'ayez pas peur.
Si je prends un côté de la rue et vous l'autre, pour éviter d'être remarqué, me promettez-vous de ne pas vous sauver. Je m'en rapporterai à votre parole.
Oui, monsieur, je m'en sauverai pas, à moins que je le voie.
Très bien, dépêchons-nous. La moitié de la ville est déjà levée, et dans une heure, tout le monde sera réveillé.
Bonjour, ma brave femme, bonjour.
Bonjour, monsieur, et merci bien de vos bontés.
Dites bien à la jeune miss que je voulais pas lui faire du mal.
Et ne manquez pas de lui rapporter aussi ce que le monsieur a dit,
répète le pauvre Joe en s'éloignant de la femme du briquetier, après lui avoir dit adieu, moitié riant, moitié pleurant.
Monsieur Woodcourt traverse la rue, Joe rampe de son côté en longeant la muraille, et tous les deux se retrouvent en plein soleil dès qu'ils sortent de Tormorlones.